Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlerez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Si la Seconde Guerre mondiale a sans doute moins inspiré les grands auteurs de bande dessinée que les grands cinéastes ou les grands écrivains, il n'en reste pas moins que ce traumatisme majeur du XXe siècle constitue le sujet ou la trame de fond de nombreux albums de BD. C'est ce que nous verrons ce soir dans ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian.
Ah, Milou, que faire ? Oh, tant pis. Le sentier surplombe l'endroit où il doit passer. Une seule solution ? Je saute. Un, deux... Trois. Il était temps. À 2 mètres du poteau frontière. Ouf. Et j'ai récupéré le sceptre. Bon, notre homme est au pays des songes. Voyons ses poches. Voyons cela. Au commandant des sections de choc. Objet, prise du pouvoir. Rien que ça. J'attire votre attention sur ce qui suit. La veille de la Saint-Vladimir... Nos agents provocateurs feront en sorte que des habitants de nationalité bordure soient molestés. Le jour de la Saint-Vladimir à 12h, les sections de choc occuperont le poste de Radio Clove PTT. Et c'est signé Muspler. Bon. Eh bien, Milou, il n'y a pas un instant à perdre. Allez, en route !
Le sceptre d'autocar d'Hergé, le 8e album de Tintin, paraît en 1938. Cette année est celle d'un événement capital, l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, aboutissement logique d'un processus entamé en 1933 lors de la prise du pouvoir par Adolf Hitler en Allemagne. Or, Hergé ne fait rien d'autre que le récit d'un Anschluss raté dans le sceptre d'autocar. Pays imaginaire, la Sildavie est la synthèse de 3 pays bien réels. La présence d'une 5e colonne d'espions et de saboteurs qui infiltrent et déstabilisent la Sildavie rappelle la situation de l'Autriche. Le conflit séculaire qui oppose la Sildavie et son voisin la Bordurie est semblable à celui qui opposait la Pologne à l'Allemagne. Enfin, on pense à la Roumanie, qui possédait un parti fasciste nommé la Garde de Fer, proche de la Garde d'Acier Sildave. Quant au nom du chef du parti de cette garde d'acier pro-bordure, il est révélateur, Mustler étant une évidente combinaison de Mussolini et Hitler. Jan Carta, le personnage de BD créé par les Italiens Dalpra et Torti en 1985, assiste impuissant à la montée du national-socialisme dans l'Allemagne des années 30 et à celle du fascisme dans l'Italie de Mussolini. En 1992, Emmanuel Guibert fait ses débuts avec un album intitulé « Brune », paru chez Albin Michel. À travers le destin d'un jeune couple, Nina et Werner, Brune retrace la montée du nazisme à Berlin avec un réalisme angoissant. Guibert renie aujourd'hui le scénario de son premier album, peut-être à cause de la représentation qu'il donnait d'Hitler lui-même. Dans Brune, on voit celui-ci signer un pacte avec le diable pour accéder au pouvoir. Brune reste néanmoins une œuvre extrêmement impressionnante, d'une grande virtuosité technique. En comparaison avec Guibert, le moins qu'on puisse dire est que la série Odilon Verjus donne une vision plus drôle et sarcastique du Berlin des années 30. C'est dans le tome 4 de ses aventures, intitulé carrément Adolphe, qu'Odilon Verjus, le missionnaire bagarreur de Yann Everon, ridiculise avec jubilation Hitler et sa clique. La barbe rousse, soigneusement coupée, un large feutre sur la tête, séduisant mais secret, Max Friedman, l'espion énigmatique créé par Vittorio Giardino en 1982, hante l'Europe déchirée de 1938, traquant les espions nazis d'Istanbul à Budapest.
Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir. L'autre, celui qui fait rêver les communiantes, des armes bleues comme la terre, des qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, des qui vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Des
Ce soir dans Captivant sur RVE, nous voyons comment la Seconde Guerre mondiale est représentée dans la bande dessinée. Après son annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, l'Allemagne envahit la Pologne. Deux jours après, la France et la Grande-Bretagne lui déclarent la guerre. Dessiné par Bergès et Chauvin, deux albums de la série Beagles, intitulés « La bataille d'Angleterre » et « La bataille de France », illustrent les deux grands chocs aériens du début de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1940, l'Italie de Mussolini s'engage aux côtés de l'Allemagne. Le 17 juin, le chef de l'État français, le maréchal Pétain, capitule. À l'issue de sa guerre éclair, Hitler est parvenu à conquérir de nombreux pays. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique reste neutre. Et pourtant, parmi les adversaires du Spirit, le héros créé par Will Eisner en 1940 pour les journaux du dimanche américain, on trouve des espions et des éléments de la 5e colonne. Car en fait, si les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale qu'en 1941, les héros de comics ont déjà commencé la lutte, s'en prenant d'abord aux ennemis intérieurs, espions et collaborateurs, qui tentent à longueur de page de saboter l'industrie américaine. Le plus bel exploit du Spirit est sans doute l'occupation d'une partie de Central City à la tête de troupes casquées et armées et brandissant des drapeaux à croix gammée. Une invasion destinée à faire peur à la population pour qu'elle souscrive aux emprunts de guerre. Parmi les nouvelles figures de la BD américaine créée en 1941 pour combattre le nazisme et ses alliés, on en trouve deux dont les costumes sont carrément aux couleurs du drapeau des États-Unis. Le viril Captain America et une femme, Wonder Woman, imaginée par le psychologue William Marsden. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la flotte américaine à Pearl Harbor. Les États-Unis sont maintenant engagés dans le conflit mondial. Les autorités américaines demandent alors au dessinateur Milton Caniff de réaliser les aventures d'une héroïne sexy afin de remonter le moral des troupes. Ce sera Mel Kell. Un demi-siècle plus tard, le scénariste Yann aura l'idée de romancer la création de Mel Kell. La série Pin-Up, dessinée par Berthe Pourdargaud, racontera l'histoire de Dorothy Partington, la jolie rousse qui aurait servi de modèle à Milton Caniff. Imaginée par les Belges Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon en 1946, la série Buck Danny débute par un album intitulé « Les Japs Attack ». On y découvre trois jeunes pilotes de l'US Air Force qui vont participer activement à la guerre du Pacifique. Le capitaine Buck Danny, le taciturne Tumbler et le rouquin Sonny Tucson, gaffeur et amateur de jolies filles. Héros lui aussi de la guerre du Pacifique, le sergent Gary, créé en 1948 dans la presse française par Félix Molinari, entraîne ses lecteurs sur tous les points chauds du conflit, de la Chine à Guadalcanal en passant par les îles d'Océanie. Le même Molinari lance en 1972 aux éditions Imperia une série intitulée Tora. Reprise en 1994 chez Soleil sous le titre Les Tigres Volants, cette BD propose de suivre les exploits des pilotes volontaires américains ayant combattu sous les couleurs nationalistes chinoises en 1941 et 1942. Les chroniques de guerre d'Ernie Pike, dessinées à partir de 1957 par Hugo Pratt, ont pour héros un correspondant de guerre inspiré par le journaliste américain Ernest Taylor Pyle, né en 1900, mort en 1945 à Okinawa. Parmi les autres héros de BD américains de la guerre du Pacifique, n'oublions pas le sergent Rock, qui faillit être interprété au cinéma par Schwarzenegger. Ce comic book américain, lancé en 1959, a bénéficié de signatures prestigieuses, Joe Kubert, Frank Robbins ou Alex Toth. Dans la BD occidentale, européenne ou américaine, le point de vue japonais sur la guerre du Pacifique est presque inexistant. Le héros est américain, l'ennemi est une face de citron, pour reprendre l'insulte anti-japonaise favorite de Buck Danny. Citons cependant une exception, un album du français Guy Mouminoux, dit Dimitri, paru en 1997 chez Glénat et intitulé Kamikaze. On y suivait l'histoire tragique d'un jeune lieutenant japonais prénommé Yoshi. Surnommé au Japon le dieu du manga, Osamu Tezuka est le père de la bande dessinée et de l'animation japonaise contemporaine. L'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, l'histoire des trois Adolphes, raconte la vie de deux amis, deux jeunes émigrés allemands au Japon. Adolphe Camille, le fils d'un boulanger juif, et Adolphe Kaufmann, dont le père est un diplomate allemand en poste à Tokyo. Le premier va apprendre un secret sur Adolf Hitler qu'il va confier au second, un secret qui est un prétexte pour permettre à Tezuka de montrer comment un adolescent ouvert et tolérant peut devenir un monstre inhumain capable des crimes les plus abominables. L'histoire des trois Adolphes est éditée en France par Tonkam en 4 volumes.
Marc Dacier.
En 1997, le dessinateur Jean-Pierre Gibras devient son propre scénariste et signe le premier des deux tomes du Sursis chez Dupuis. À travers l'histoire de Julien, un jeune homme qui cherche à échapper au STO, le service du travail obligatoire, le Sursis présente l'occupation allemande dans un village de province en Aveyron. Gibras réalise ensuite un nouveau diptyque, Le vol du corbeau, qui s'intéresse cette fois à l'occupation de Paris. Pourquoi cet intérêt pour la période de l'occupation ?
En fait, c'est très classique, mais c'est la période, comme toutes les périodes très difficiles, où les gens donnent le meilleur et le pire d'eux-mêmes. Donc ça permet sur le plan romanesque d'avoir des caractères, d'avoir des situations un peu exacerbées et tout. Et Voilà, donc à la fois je suis fasciné par l'époque, justement pour cette raison-là, c'est que il y a des choses évidemment à la fois effrayantes et incroyablement nobles qui se sont produites. C'est l'idéal pour quand on a envie de raconter des histoires, de prendre cette époque.
Et depuis Le Sorcier, tu es non seulement devenu scénariste, mais tu as également changé ta technique de dessin en adoptant la couleur directe.
Ben en fait, je suis revenu au départ, c'est-à-dire que les toutes premières histoires courtes dont tu parlais pour Pilote, c'était couleur directe. Et puis après, pour des raisons économiques, Dargo m'a demandé de faire sur des bleus, ce qui m'intéressait pas spécialement, mais bon, je me suis plié aux exigences de l'éditeur. Et après, quand j'ai proposé l'histoire à Claude Gendreau, je lui ai dit « j'aimerais bien la faire en couleur directe ». Lui, ça lui a un peu fait peur parce qu'il aimait bien Marée Basse, tout ça. Il m'a dit « non, mais pourquoi tu fais pas comme tu faisais là sur Marée Basse ?» J'ai dit bah, « écoute, je pense que je ferais mieux ». Il m'a fait complètement confiance. Quand il a eu les premières pages, il m'a dit bah, « voilà, continue, c'est exactement comme ça qu'il faut le faire ».
Jean-Pierre Gibras, merci.
Instaurons l'état d'urgence, des missions de reconnaissance. Ne restons plus sur nos défenses, nos pavillons de complaisance. Engageons-nous dans la résistance. Donnons-nous encore une chance. Invoquons le droit d'ingérence. Rentrons en guerre d'indépendance. À ceux qui n'ont pas eu la chance. Faisons preuve un peu de conscience. Entrons enfin en dissidence. Ne restons pas sur
sur 103.7.
Ce soir, Captivant s'intéresse à la façon dont la Seconde Guerre mondiale est représentée dans la bande dessinée. Il y a quelques minutes, nous avons entendu Jean-Pierre Gibras nous parler du Sorcier et du Vol du Corbeau, les deux diptyques qu'il a consacrés à la période de l'occupation. Avant Gibras, d'autres auteurs de BD se sont intéressés à cette sombre période de l'histoire de France. En 1946, paraît en France un album intitulé « La bête est morte », signé Dansette et Zimmermann pour le scénario et Edmond-François Calvo pour le dessin. Le narrateur de cette fable animalière, grand-père pas tant moins, raconte à ses petits-enfants l'histoire de sa jambe de bois. Pendant 5 ans, le monde des lapins, la France, a été occupé par les loups, les nazis, commandés par le grand loup qui voulait devenir le maître du monde, allié aux hyènes et à d'autres nuisibles. Les braves lapins luttent contre l'envahisseur, aidés par les bulldogs, les anglais, et les ours, les soviétiques. Même s'il a été conçu pendant l'occupation, La Bête est morte, le chef-d'œuvre de Calvo, n'est pas la première BD consacrée à cette période. Vic Jourdan est le titre d'un strip quotidien lancé en 1941 dans la presse américaine. Agent de l'ombre, Vic Jourdan entraîne ses lecteurs dans le monde de l'espionnage en France sous l'occupation. Ses aventures, imaginées par Elmer Wexler, seront poursuivies jusqu'en 1945. Cette même année, dans un journal français intitulé Le Jeune Patriote, Roger Lecureux invente Fifi Gadumaki, un jeune provincial qui rejoint la résistance afin d'y vivre des aventures héroïques et patriotiques. Plus gradé, le colonel X est créé en 1947 par Marie-Jacques et Raymond Poivet dans Cocardie. Inspiré du personnage réel de Dominique Ponchardier, père du fameux gorille, le colonel X appartient au service secret des forces françaises libres. Parmi les autres héros de BD appartenant à la résistance française, citons encore Jean et Jeannette, deux enfants, frères et sœurs, créés en 1950 par Jacques Souriau dans l'hebdomadaire Vaillant. Le réseau secret F-64, imaginé par Fronval et Nortier en 1952 dans L'Intrépide. Marc, créé en 1955 par le belge Gem pour les éditions Artima et qui s'est engagé dans la résistance après la déportation de son père en Allemagne. Ou encore le Grêlé 7-13, lancé par Roger Lecureux et Christian Gatti dans Vaillant en 1966 et qui doit son curieux surnom aux 7 taches de rousseur qu'il porte sur la joue droite et aux 13 autres qui ornent sa joue gauche. Seule série humoristique sur le thème de la résistance, Les Trois Mousquetaires du Maquis met en scène un joyeux trio. L'avocat qui doit son surnom à son baratin et non à ses diplômes, Pinceau, l'artiste de la bande, le fignoleur, enfin La Torpille, l'intellectuel. Inspiré par les résistants qu'il a côtoyés dans le Maquis, Marie-Jacques écrit et dessine cette série mythique dès 1944 dans Le Corbeau déchaîné, feuille clandestine destinée au Maquis de la région centre auquel il appartient. D'un ton bien plus grave, Le Boche, la série écrite par Daniel Bardet et dessinée par Stalner à partir de 1990 pour Glénat, débute à la veille de la guerre avec l'arrivée d'un homme grand et blond dans un paisible village du cœur de la France. D'origine alsacienne, Klaus Zollner devient pour tous Le Boche. Avec la guerre débute pour lui une fuite sous les bombes. Les hommes et les femmes qui croisent sa route témoignent de la vie quotidienne en France sous le joug allemand. Le premier des Nestor Burma, adapté en BD par Tardy, 120 rue de la Gare, se déroule pendant l'occupation. Nestor Burma est un détective privé de la littérature policière dont l'auteur, Léo Mallet, avait vécu la période de la guerre. Superbement mise en image par Tardy, l'intrigue de 120 rue de la Gare débute en septembre 1940 dans un stalag. Elle se poursuit à Lyon, puis ramènera Burma en zone occupée pour résoudre une énigme bien étrange.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
the sun's gone to hell. And the moon riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Marc Dacier. Comment la Seconde Guerre mondiale est-elle représentée dans la bande dessinée ? En 1938, en pleine Italie fasciste, le dessinateur germano-italien Kurt César crée le personnage de Romano il Legionario dans l'hebdomadaire Il Vittorioso. À bord de son Fiat CR-32 Fighter, Romano, ingénieur mais aussi pilote athlétique, prend l'air pour l'Espagne où il aide les troupes de Franco à combattre les républicains. Légionnaire, il sera présent sur la plupart des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, Afrique, Grèce, front russe, Japon et Tibet, où prennent fin ses aventures en 1943. Ouvertement pro-nazi, Romano il Legionario est très aimé par les lecteurs italiens de l'époque. En France, il est publié en 1939 dans L'As sous le titre Martial Aigle du Ciel. Parmi les alliés que ce héros fasciste a peut-être combattu en Afrique du Nord, Tomic, Tony Cyclone ou les 5 As. Tomic, créé en 1957 par Lombard et Brisson pour le mensuel Téméraire, est un élément de choc du célèbre commando Baroud. Le pilote Tony Cyclone est membre du Desert Group tout au long de la guerre du désert dans la série dessinée par Roger Méliès pour Artima de 49 à 65. Quant aux 5 As, ce sont des personnages de la bande dessinée anglaise créée par Eric Bradbury en 1960 dans l'hebdo Buster. Mais la série la plus intéressante consacrée aux batailles d'Afrique du Nord est incontestablement Les Scorpions du désert de Hugo Pratt, qui à partir de 1969 dans la presse italienne présente le face-à-face des Anglais et des Italiens dans les sables du désert d'Érythrée. La bande dessinée populaire anglaise a énormément utilisé la Seconde Guerre mondiale comme source d'inspiration. Lieutenant-colonel de la RAF, l'armée de l'air britannique, Butler Britton, créé par Butterworth et Campion dans l'hebdo Sun, a connu une immense popularité de 1956 à 1984. Autre pilote de la RAF, le personnage des romans du capitaine William Earl Jones, Beagles, a inspiré une BD à l'anglais Rondon Bolton en 1960, mais l'adaptation de Beagles, la plus connue des lecteurs français, est celle lancée par Francis Bergès en 1990 pour les éditions Lefranc. La BD anglaise a également produit un agent secret dont les aventures ont duré près de 3 décennies, X-13. Espion caméléon, bête noire des nazis, ce personnage voit le jour en 1958 dans le magazine anglais Thriller Picture Library. Bien plus intéressante que les séries B anglaises, La Guerre d'Alan, une trilogie signée Emmanuel Guibert, est éditée par l'association à partir de 2002. On y suit l'histoire vraie, peu spectaculaire mais passionnante et humaine, d'Alan Kopp, un jeune GI enrôlé en 1944. Après sa préparation militaire, il se retrouve en Europe, de Normandie en Tchécoslovaquie. Guibert a rencontré Alan Kopp alors que celui-ci était à la retraite sur l'île de Ré. Une amitié est alors née entre les deux hommes avec de nombreuses conversations et échanges de lettres, prolongées par cette bande dessinée, La Guerre d'Alan. Le 6 juin 1944, le débarquement des troupes alliées en Normandie est un succès. À l'occasion du cinquantenaire de cet événement, en 1994 donc, les éditions de La Porte proposent une BD signée Saint-Michel et Mr. Kit et intitulée « Overlord, 6 juin 1944, la liberté ».
En envahissant l'Allemagne, les troupes alliées découvrent les camps de la mort nazis. Pour raconter la Shoah, le génocide du peuple juif, l'américain Art Spiegelman choisit, comme Calvo l'avait fait pour raconter l'occupation, le genre de la BD animalière. Publié de 1980 à 1992 dans le journal Raw, Maus s'impose vite comme une œuvre majeure de l'histoire de la bande dessinée. Ce sera le premier album de BD récompensé du prix Pulitzer. Les Juifs y sont représentés par de paisibles souris, alors que les nazis ont l'apparence de chats cruels et les Polonais de porcs. Spiegelman utilise un dessin en noir et blanc audacieux pour illustrer un scénario intelligent et documenté. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. Pour obtenir la reddition du Japon, les États-Unis lancent deux bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima, le 6 août, et de Nagasaki, le 9. Gen d'Hiroshima, un manga en 10 volumes signé Nakazawa, raconte l'histoire d'un petit garçon survivant de la bombe atomique. Concluons cette émission en évoquant une somme réalisée par Pierre Dupuy pour Hachette dans les années 70. 9 tomes intitulés tout simplement « La Seconde Guerre mondiale en BD ». Merci à Christian qui a réalisé ce numéro spécial de Captivant. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz, Glenn Miller et l'orchestre de l'armée de l'air américaine, enregistré à Londres en novembre 1944. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.